On a commencé une étude sur le Saint-Esprit pour parler de, pour apprendre à connaître le Saint-Esprit, puis comment est-ce que le Saint-Esprit travaille dans les gens. Il y a différentes manières, il y a différentes choses que le Saint-Esprit fait à travers de nous, puis une entre autres qu'il fait, c'est de revêtir les croyants d'une puissance spéciale qui fait des manifestations extérieures dans nos vies. Ça s'appelle baptiser du Saint-Esprit. On voit cette expérience-là assez faite dans Actes, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2. Ils ont reçu le Saint-Esprit, puis il est apparu, le Saint-Esprit, dans cette pièce-là. Il était à 120 personnes de réunies. Il a descendu comme en langue de feu, puis il s'est posé sur chacun d'eux. Les gens se sont mis à parler en d'autres langues, puis il y a toutes sortes de manifestations qui s'est produites, comme un tremblement, pas un tremblement de terre, mais du vent qu'il y a eu dans la pièce. Tellement bruyant ce qui s'est passé là, qu'il y avait une fête dans cette ville-là, cette journée-là, puis les gens de la fête, il y a 3000 personnes qui s'est approchées sur le bord de la maison pour venir voir qu'est-ce qui se passait là, dans cette maison-là. Puis que là, il a expliqué que c'est la puissance du Saint-Esprit qui est descendue sur chacun d'eux. Puis là, il s'est passé des dons spirituels que la Bible l'appelle. C'est une manifestation des dons de Dieu. Dieu a donné le don de parler en d'autres langues à certaines personnes, ben, aux gens qui étaient là, comme il a donné aussi d'autres sortes de dons spirituels. Puis c'est ça qu'on est en train d'étudier avec des passages de la Bible. On est en train de faire un survol de tous les dons spirituels. Quels sont les dons spirituels que le Saint-Esprit a donnés à son Église? Parce que Dieu veut équiper son Église pour que son Église manifeste ces dons-là, pour que les gens qui manifestent ces dons-là, quand tu manifestes, mettons, comme on a vu la semaine passée, le don de parole de sagesse, on a vu que Jésus, il est en train de jaser avec des personnes viennent pour y tendre un piège, puis là, Jésus répondait une parole poussée par le Saint-Esprit, puis c'était une parole que les gens ne pouvaient pas répondre, c'était la meilleure parole qui ne pouvait pas être donnée pour cette situation-là. Ou que des gens, comme on voit comme l'histoire de Salomon, qu'il y a deux femmes qui avaient deux enfants, puis l'un des deux qui est mort, puis là, après ça, les deux femmes disaient que l'autre enfant était à elle. Les deux réclamaient l'autre enfant, puis là, il y a une parole inspirée de Dieu pour trancher la question, pour pouvoir trouver quelle était la vraie mère, laquelle était la vraie mère. Mais on voit que Dieu peut intervenir dans la vie de ceux qui croient en lui pour se manifester et donner des paroles pour donner aux autres ou pour nous-mêmes, pour une situation qu'on vit. Ce soir, le don qu'on va étudier, c'est le don de parole de connaissance. On va voir comme plusieurs passages pour nous faire comprendre comment que ça marche, le don de parole de connaissance que le Saint-Esprit peut donner à une personne. Premièrement, ce don-là, on le voit dans 1 Corinthiens, chapitre 12, le verset 7. Ça nous dit, « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, si on l'a vu la semaine passée, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. » Bon, ça, la parole de connaissance, c'est ça qu'on va étudier ce soir. On veut savoir qu'est-ce que Dieu... Ça dit que c'est le Saint-Esprit qui a donné des paroles de connaissance. À quoi que ça sert des paroles de connaissance? Premièrement, c'est quoi des paroles de connaissance? On va voir, premièrement, on va voir que les paroles que le Saint-Esprit donne, ça n'a pas rapport avec la connaissance humaine. Parce que les humains peuvent aller à l'école, peuvent lire des livres, peuvent étudier, ça donne de la connaissance. La connaissance, c'est du savoir. C'est que tu apprends à connaître, tu deviens un savant. Plus que tu apprends, plus que tu sais les choses, puis ça, quand tu es rendu que tu connais beaucoup de choses ou que tu as des spécialités au-dessus de la moyenne, tu es appelé un savant. Mais au point de vue humain, c'est la connaissance humaine. Mais le don que le Saint-Esprit veut donner n'a pas rapport avec la sagesse humaine. La sagesse humaine, on voit ça dans 1 Corinthiens 2, on voit que la Bible parle de la sagesse humaine dans d'autres passages. Ça dit, Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Fait que l'esprit de l'homme, dans l'homme, lui permet d'apprendre les choses de cette vie, les choses humaines, les choses naturelles. Notre esprit humain que Dieu nous a donné nous fait raisonner dans les choses humaines pour apprendre les choses humaines. Ça, c'est une connaissance qui existe, la connaissance des choses humaines. Mais c'est pas un don spirituel. Ça, tu peux avoir quand même des talents donnés par Dieu, d'être une personne qui apprend facilement, qui connaît beaucoup de choses, puis est capable d'expliquer des choses humaines. Dieu a fait qu'il y a certaines personnes qui sont plus intelligentes que d'autres. Mais le don de parole de connaissance n'a pas rapport avec la connaissance humaine. Puis on voit même un point tellement qu'il y a de la différence entre les deux. Dans 1 Corinthiens 2,14, ça nous dit, l'homme animal, ça c'est l'homme naturel, l'homme humain sans Dieu, là, l'homme humain, il ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Là, on voit que l'homme humain, l'homme naturel, la Bible elle appelle ça l'homme animal, pense aux choses de la terre, tout ce qui existe. Il voit les arbres, il est capable de prendre un arbre, le couper. Il peut même donner des noms à toutes les espèces d'arbres, puis étudier les arbres pour finir pour savoir qu'il y a 100 ans cet arbre-là. On est capable d'apprendre des choses humaines, mais l'homme naturel, l'homme humain, peut pas comprendre les choses de Dieu. Parce que c'est spirituellement qu'on analyse les choses de Dieu. C'est pas avec l'esprit humain. La connaissance humaine arrive pas à comprendre les choses de Dieu. Pour arriver à comprendre les choses de Dieu, faut que ça soit l'esprit de Dieu qui te révèle. Parce que l'homme humain, son cerveau lui a été donné pour comprendre les choses qu'il voit dans le monde humain. Pour arriver à comprendre le monde invisible, ça prend l'Esprit de Dieu qui te révèle ces choses-là. On voit que la connaissance humaine, ça a une importance, mais ça ne sert pas à grand-chose au point de vue de Dieu. Là, la deuxième partie, c'est que là, tu as la connaissance humaine. Là, on va voir qu'il y a aussi la connaissance spirituelle, de connaître les choses de Dieu. Ce que l'Esprit de Dieu peut t'enseigner de la Bible, puis arriver avec tes expériences, puis ce que tu lis dans la Bible, t'apprends des choses, t'apprends à connaître Dieu, t'apprends à connaître le chemin de Dieu, t'apprends à connaître des choses. Mais ça, c'est la connaissance spirituelle. Ça n'a pas rapport avec ton niveau de connaissance humaine. Tu peux être une personne pas si intelligente que ça, mais comprendre beaucoup de choses avec Dieu, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui te les révèle. Tu n'as pas besoin d'être un savant humain pour comprendre les choses de Dieu. La Bible elle nous dit même qu'un enfant pourrait comprendre. C'est quelque chose qui est comme donné par Dieu de comprendre les choses de Dieu. On va voir certains versets dans ce sens-là. La connaissance des choses de Dieu, c'est la connaissance spirituelle. 1 Corinthiens 2,11. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Donc, on voit que tout ce qui est de la connaissance des choses de Dieu, faut que ça soit révélé par le Saint-Esprit, parce que c'est juste lui, le Saint-Esprit, qui connaît les choses de Dieu. L'humain, dans sa connaissance, va apprendre à changer les couches, il est capable, puis il est capable aussi de laver le bébé, il n'a pas y changer les couches. Il comprend des choses humaines, terre à terre, mais quand tu commences à parler des choses du monde invisible, ça prend le Saint-Esprit qui vient te enseigner. Puis là, ça, c'est comme la connaissance spirituelle. On va continuer dans cette pensée-là. Luc 8, 10, ça nous dit, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. » Jésus parle à ses disciples, parce que ses disciples sont allés à Jésus. Bon, ils ont reçu les révélations de la parole de Dieu, puis c'est le Saint-Esprit qui les a données. Ils ont la connaissance de Dieu, des choses de Dieu. Ils connaissent les choses du royaume des cieux. Fait que tout disciple de Jésus, quand tu restes proche de Jésus, puis que tu étudies les choses de la parole de Dieu, Dieu va te donner la connaissance des choses de Dieu. Un autre verset dans cette pensée-là, Colossiens 1:9. C'est pour cela aussi que nous aussi, depuis le jour où vous avez été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de lui demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Paul, il priait pour les autres chrétiens qui étaient là. Il priait pour qu'ils soient remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Donc, la connaissance des choses de Dieu, c'est donné à son peuple. Dieu donne ça à son peuple. C'est des choses qui sont révélées par le Saint-Esprit. Puis, cette connaissance-là, on peut prier Dieu d'augmenter notre connaissance des choses de Dieu. Là, Dieu va commencer à te montrer des affaires. Mettons, tu demandes à Dieu, « Seigneur, j'aimerais ça comprendre telle affaire sur ta parole. » Tu lui demandes. Puis là, tu t'écoutes, là. Puis là, tu vas voir dans journée, puis dans semaine, il va te montrer des affaires, puis il va te révéler les choses. Parce que on le sait que quand tu es un enfant de Dieu, tu entends la voix de Dieu. Puis Dieu te montre les affaires que tu as besoin d'apprendre. Mais il faut être à l'écoute. Il faut y demander aussi. Si on ne demande pas, il ne fera pas. Il veut nous révéler les choses de sa parole, mais il faut le demander, puis il faut être à l'écoute, puis il va nous le montrer. Ça, j'en ai eu plein d'exemples de ça que j'ai vécu personnellement, où ce que je demande des révélations pour tel et tel sujet, puis là, après ça, dans la semaine, il m'y montre. Je vois plein d'affaires qui me montrent pour me faire comprendre. Puis là, Dieu, il me donne ça pour que je puisse retransmettre ces choses-là. Mais là, on voit là qu'il y a deux sortes de connaissances. La connaissance des humains, puis il y a la connaissance de Dieu, qui est donnée par l'Esprit de Dieu. Là, je vais vous parler d'une troisième sorte de connaissance. C'est celle-là qu'on veut voir ce soir. C'est les paroles de connaissance. Les paroles de connaissance n'ont pas rapport avec la connaissance humaine, ni avec la connaissance des choses de Dieu. C'est des paroles que le Saint-Esprit lui-même donne dans un moment précis, à un moment donné, puis c'est une parole qui est utile pour ce moment-là. Même si tu sais pas à qui est-ce que ça s'adresse, ou même si tu comprends pas pourquoi tu dirais ça, en écoutant le Saint-Esprit qui donne cette parole-là, ça sert à quelqu'un pour une situation. On va voir, pour donner une petite explication, une parole de connaissance là qui est donnée par le Saint-Esprit, c'est un don spirituel que Dieu veut donner à certaines personnes dans son Église pour manifester ce signe-là dans l'Église. Il dit c'est une révélation de ce que Dieu connaît. Puis elle fonctionne sur le même principe qu'une parole de sagesse. On avait la parole de sagesse la semaine passée, que, mettons, Jésus est dans une situation, il fallait qu'il y ait une parole qui est sage, qui va être utile pour la situation qu'il est en train de vivre. Mais une parole de connaissance, c'est la même affaire. C'est une parole que l'Esprit va donner dans un moment précis, pendant que tu es avec des personnes, puis là, tu as besoin d'une parole pour le moment présent, une parole que Dieu te donne pour pouvoir arranger une situation. Mais une parole de... Hein? Non, c'est une prophétie, on va le voir plus tard dans les autres études. Ce soir, c'est les paroles de connaissance, puis ça va voir la différence avec la suite des études. Mais la parole de connaissance... Ça, c'est une révélation de connaissance de faits ou de circonstances ou d'événements ou des personnes. Toi, tu connais pas, mais Dieu connaît ce qui se passe. Mettons, dans tes pensées, tu as une pensée. Dieu me donne une parole pour dire tout haut, puis je suis en train de révéler ce que tu es en train de penser. Autrement dit, Dieu, qui connaît nos cœurs, il donnera une parole pour répondre à une question que quelqu'un a dans son cœur. Il n'y a même pas besoin de poser la question, puis le Saint-Esprit donnera la réponse. Puis ça, on en voit souvent de ça, de ces paroles-là, lorsqu'il y a des enseignements. Tu écoutes un pasteur qui prêche, il enseigne des affaires, mais à un moment donné, il va parler de sujets qui te touchent, c'est des sujets que tu vis dans ta semaine, c'est des sujets que tu vis dans ta journée, tu peux avoir même des questionnements dans le moment présent, puis là tu écoutes le pasteur, puis les enseignements qu'il dit, ça donne des révélations en paroles en parole de connaissance. C'est comme s'il donne une parole pour répondre sans qu'il connaisse lui. Lui qu'il ne sait pas, mais il répond. C'est comme s'il parle dans le nom de Dieu pour donner une parole. Puis il répond à tes questions personnelles. Tes choses ont été dévoilées. Mais la prophétie, les prophètes ont souvent des paroles de connaissance. Mais c'est pas le seul don qu'ils ont. Ils ont plusieurs dons. Des fois, une personne peut avoir plusieurs dons. Mais la parole de connaissance, on va voir des exemples de ça. Dans Luc 2, 26, on voit que il y avait un personnage, Siméon, qui était dans le temple quand Jésus est venu au monde. Lui, il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ, le Seigneur. Donc, ce gars-là avait reçu une révélation qui avait dit « Tu mourras pas avant d'avoir vu le Seigneur. » Fait qu'il s'en va au temple, il rencontre Marie, mais ça, c'est, il n'y a pas eu ça cette journée-là, il y a eu ça à un moment donné, puis il gardait cette parole-là dans son cœur. Puis quand il est arrivé la journée qu'il a rencontré Jésus, le bébé Jésus d'un bras à Marie dans le temple, il savait que c'était l'enfant Jésus, puis là, il a glorifié le Père, puis il a dit, il a remercié Dieu, son Père, d'avoir vu le bébé, puis il savait que c'était le bébé, puis il savait qu'il a rendu gloire à Dieu en confessant que c'était l'enfant qui était pour être le sauveur du monde. Oui. Il y avait eu une parole de connaissance sur Jésus pour comprendre que c'était Jésus qui était le sauveur. Il s'adressait au bon bébé. Il aurait pu en rencontrer 200 bébés, mais quand il est arrivé à Jésus, il savait que c'était lui, sans que sa mère y ait dit quoi que ce soit. Voyez-vous? On va voir d'autres exemples. Dans Marc 2, 8, ça nous dit, Jésus est en train de parler avec des gens, puis Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, il leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? » Puis là, il leur a dit des réponses, mais il y avait une parole de connaissance, c'est que là, il était au courant de ce que les autres pensaient dans leur cœur, puis là, il leur a dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? » Les gens n'avaient même pas encore ouvert la bouche que Jésus connaissait leur cœur. Donc, c'est ça, une parole de connaissance. C'est d'arriver à connaître des choses cachées, des choses qui n'ont pas été révélées, mais c'est Dieu qui permet que ça soit révélé. Parce que ça a un but. Ça l'amène à glorifier Dieu. Mais des fois, ça l'amène, comme là, à dénoncer des hypocrisies ou à, tu sais, il y a des situations que ça peut être utile. Dans Jean 2, 24, ça nous dit, Jésus, encore en parlant de Jésus, « Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'y avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. » Jésus a manifesté le don de parole de connaissance à plusieurs reprises, puis il répondait aux gens sans même que les gens lui posent des questions, puis il ne se fiait pas aux gens. Il était avec, là, il leur parlait, c'est correct, mais il se fiait pas aux gens parce qu'il connaissait ce qui était dans le cœur des gens. C'est extraordinaire. Puis Dieu veut donner ce don-là à des personnes parce que c'est utile pour son Église. Un autre exemple de ça, dans Jean au chapitre 4, le verset 15, avec la femme samaritaine, la femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. »« Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui a dit, « Tu as raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et en cela, tu as dit vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. » Tu vois que les gens qui avaient des paroles de connaissance, ils étaient appelés prophètes. Parce que les prophètes dans l'Ancien Testament, si on lit l'histoire de l'Ancien Testament, on va voir à plusieurs reprises que les prophètes révélaient des choses cachées. puis que ça fait partie des dons de Dieu que Dieu donne parce que ça sert dans l'œuvre de Dieu, ce genre de don-là. Là, Jésus, il avait jamais vu cette personne-là, puis il a dit, t'as eu 5 maris, puis celle que t'as présentement, c'est pas ton mari. Puis elle, il a répondu pile. Puis elle a dit, oui, c'était vrai. Tu vois que c'est quelqu'un qui a ce don-là, tu sais que ce don-là, tu marches un petit peu les fesses serrées, comme dans l'expression, parce que tu te dis, il peut révéler les pensées de mon cœur. Hein? Un autre exemple de ça, justement, c'est avec un roi de l'Ancien Testament, dans 2 Rois, le chapitre 6, le verset 8. C'est que le peuple d'Israël est en guerre avec le peuple de la Syrie. Puis là, le roi de Syrie, il planifiait des manigances pour essayer d'attaquer Israël, mais le prophète révélait au roi d'Israël les tactiques que l'autre planifiait. Le prophète était pas, il allait pas consulter le roi ennemi, mais il savait, parce que c'était révélé par le Saint-Esprit, il savait ce que l'autre disait pendant qu'il était en train de planifier ses attaques. Puis là, tout tombait à l'eau à chaque fois. C'est ce qu'on voit dans 2 Rois au chapitre 6. Ça nous dit, le roi de Syrie est en guerre avec Israël, et dans un conseil, il tient avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans tel lieu, mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu-là, car les Syriens y descendent. Puis le roi d'Israël envoyait des gens pour s'y tenir en observation, vers le lieu où avait été mentionné et signalé par l'homme de Dieu. Puis cela arriva non pas une fois, ni deux fois. Là, ça veut dire que c'est arrivé plusieurs fois. Le roi de Syrie eut le cœur agité, puis il appela ses serviteurs, puis il leur dit, « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? » Puis là, l'un d'eux, serviteurs, il répondit, « Personne qui est contre toi au roi. » Il dit, au Monseigneur, mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Ça, c'est fort. Le prophète, là, il était pas avec le roi ennemi, mais le Saint-Esprit, il révélait des paroles de connaissance sur qu'est-ce que l'autre disait. Puis il rapportait ça à l'autre, puis ça défaisait les plans. Ça, c'est un beau don. Moi, je trouve ça extraordinaire. Puis le dernier exemple que je vais vous parler ce soir, c'est dans les Actes au chapitre 5, le verset 1. Ça nous parle que dans l'Église du Seigneur, il y avait un couple qui était menteur. Ouais, Ananias et Sapphira. Puis, dans cette période-là, c'est que les premiers chrétiens, ils vendaient leurs propriétés pour pouvoir donner, parce qu'ils faisaient comme une grosse collectivité. Il y avait 3000 personnes qui étaient dans les premiers chrétiens qu'il y a eu à Jérusalem, tout de suite après que Jésus soit mort puis ressuscité. Puis il y a eu 3000 personnes qui s'est converties, puis là, ils vivaient ensemble, puis ils partageaient leurs biens. Puis eux autres aussi ont vendu leurs propriétés, mais ils se sont accordés, cet homme et cette femme, ils sont accordés ensemble pour compter une menterie aux apôtres. Ils ont apporté un montant d'argent aux apôtres, mais ils en ont gardé une partie. Puis là, ils ont dit aux apôtres, cet esprit-là qu'on a vendu notre propriété. Fait qu'ils ont compté une menterie aux apôtres. Mais dans ce texte-là, on voit que ça a été une menterie comptée à Dieu. Puis Dieu a fait un jugement sur ce couple-là. Puis ils sont tombés raides morts en comptant leur menterie. Ça arrive pas à tous les fois qu'on compte des menteries, là. Mais un chrétien n'est pas supposé de compter une menterie parce que c'est un des 10 commandements de Dieu, premièrement. Puis Dieu veut qu'on marche dans la vérité. Mais ça arrive que des chrétiens mentent. Mais au début de l'Église, Dieu ne l'a pas toléré. Il a frappé de mort ces personnes-là. Mais on voit que Pierre a été averti par le Saint-Esprit qu'il est en train de compter une menterie, puis il leur a parlé. Ça dit, dans Acte 5, au verset 1, il y a un nommé Ananias avec Sapphira, sa femme, vendu une propriété. Il retint une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? » Il dit, « S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? » Il dit, « Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que t'as menti, mais à Dieu. » Là, Ananias, en entendant ces paroles, il tomba et expira. Puis une grande crainte saisit tous les auditeurs. Là, on voit que l'apôtre a été averti. L'autre, il amène l'argent. Là, il y a une parole comme quoi qu'il avait menti, qu'il c'était pas à ce prix-là qu'il avait vendu. Il a dit, pourquoi faire que tu t'es accordé pour compter cette menterie-là? Il dit, si t'aurais vendu ta propriété, l'argent était à toi. Pourquoi t'es venu dire que c'était à ce prix-là? Mais il y a eu une parole de connaissance. Ça lui a été révélé ce que l'autre venait de faire pour dénoncer le péché dans l'Église. Puis là, environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui dit cette parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? » « Oui, répondit-elle, cet esprit-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, puis ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba au pied de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte et l'emportèrent, puis l'ensevelirent auprès de son mari. Puis une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. On voit que là, il y a encore une parole de connaissance comme quoi que était pour mourir. Il a averti d'avance qu'il était pour mourir à cause de sa menterie. Puis ça, c'est quelque chose que... pas quelque chose qu'on veut vivre du tout, là, de voir des personnes tomber mortes. On aime mieux que tout le monde se repente puis que tout le monde demande pardon à Dieu. Mais c'était pour donner des exemples. Qu'est-ce qu'une parole de connaissance? Je reviens au début de comme pourquoi les dons sont là. Mais c'est des dons, ce don-là, comme tous les autres dons, c'est distribué par le Saint-Esprit. Puis tous ceux qui ont le Saint-Esprit peuvent vivre ces choses-là. L'important, c'est de réaliser qu'on peut recevoir le Saint-Esprit et vivre ces choses-là. Je vais faire une prière ce soir pour ceux qui veulent recevoir le Saint-Esprit. Mais la première chose qui est importante de faire, c'est de faire la paix avec Dieu. C'est de demander pardon à Dieu pour recevoir le pardon, pour être sûr qu'on est pardonné. C'est de demander pardon à Dieu pour nos péchés, puis de demander... qui nous donne le Saint-Esprit. Mais une fois que tu as reçu le Saint-Esprit, tu vas être une nouvelle personne. Le Saint-Esprit va rentrer dans ta vie, puis il va commencer à changer ta vie. Le Saint-Esprit veut entrer dans ta vie, pas juste pour être là, juste pour être là. Il veut t'aider, il veut t'enseigner, il veut te conduire, il veut te guider dans ta marche, puis il veut aussi se manifester à travers de toi. Il va, comme ce soir, qu'est-ce qu'on a vu, de recevoir des paroles de connaissance ou des paroles de sagesse, pouvoir dire ça aux autres. C'est des messages qui démontrent que Dieu est réellement là. Est-ce qu'il y en a qui, ce soir, qui aimeraient faire la prière pour donner le vœu au Seigneur, pour accepter Jésus comme leur sauveur personnel? Si vous le voulez, j'ai juste à le dire, on fait une prière ensemble, puis après ça, on va prier pour que vous puissiez recevoir le Saint-Esprit, puis que vous puissiez commencer à vivre cette vie-là qui est offerte à travers, comme promesse de Dieu, de pouvoir recevoir l'Esprit et de pouvoir vivre des choses que l'Esprit veut que vous viviez. Est-ce qu'il y en a ce soir qui aimeraient accepter Jésus comme leur sauveur personnel? Vous êtes libres? OK. Je vais faire une prière tout haut, puis vous avez juste à répéter cette prière-là ensemble avec moi. Père, je reconnais que je suis un pécheur, que je suis perdu, et que je suis impossible par moi-même de me sauver. Mais je crois que Jésus est venu il y a 2000 ans, qu'il est mort sur la croix et qu'il est ressuscité afin que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je la donne. Donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise tous les jours de ma vie. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen.